Alfred y Mayo Casero de Antal. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lucombati, au personnage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux statuts de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de participer à ce débat citoyen. Les Nations Unies viennent de décréter le 2 novembre journée internationale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. C'est à la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tous deux journalistes de RFI assassinés en 2013 à Kidal, au Mali. En marge de la première célébration de cette journée, la semaine dernière, Désiré Kazadi, directeur de l'Association des défenses de la liberté de la presse, FFJ, a fait savoir que la RDC est comptée, selon les différents rapports, parmi les pays prédateurs de la liberté de la presse. Selon vous, que faire pour redoubler d'efforts pour promouvoir et protéger le droit d'accéder aux sources d'informations pour les journalistes en RDC? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocafu.net ou bien appelez-nous au 081-890-7315 pour votre intervention en direct. Nous sommes là pour vous tenir compagnie et partager ensemble ces 57 minutes interactives. Alain Goy est à la technique, Faisa Julie Bongonda réalise cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer, 081-890-7315. Ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà, nous commençons cette émission avec vous, chers auditeurs. Vous êtes en ligne pour, au fait, contribuer dans ce débat citoyen. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour J.R. Lungembo, bonjour à tous les amis auditeurs.
Vous avez la parole, Maître Adrien. Selon vous, que faire pour redoubler d'efforts pour promouvoir et protéger les droits d'accéder aux sources d'information pour les journalistes à RDC?
Merci beaucoup J.R. de la question que vous m'accordez. Je pense que la liberté de la presse est consignée dans les différentes lois de la République démocratique du Congo. Donc, il suffit tout simplement qu'on puisse mettre toutes ces lois-là en exergue pour que cette liberté devienne une réalité. Deuxièmement, J.R., la liberté, c'est vrai que c'est un principe, mais si nous nous arrêtons tout simplement à dire qu'il y ait la liberté de la presse, ça sera vraiment difficile, mais il faut que les personnes concernées pour cette liberté-là, là je cite, les journalistes, doivent prendre conscience de cette tâche. Donc, qui est la leur, pour qu'ils puissent vraiment se mettre tous debout comme un seul homme pour chercher à tout prix comment est-ce qu'il faut arracher par cette liberté qui est vraiment, qui sera une très très bonne chose pour le développement même de notre pays. Parce que lorsque nous prenons le cas Ghislaine Dupont, c'est vrai que paix à son âme, c'est un cas qui a eu lieu dans des circonstances tout à fait différentes avec ce que nous vivons chez nous en RDC, parce qu'à Kidal, c'était une partie contrôlée par les rebelles, donc on ne pouvait pas quand même y mettre une certaine rigueur. Mais lorsque nous revenons chez nous ici en RDC, nous voyons qu'en face de nous, il y a une certaine réalité qui fait à ce que, avec des faits tout à fait avérés, mais les autorités congolaises se refusent d'appliquer correctement la loi. C'est pour cela qu'on parle de cette impunité. C'est pour cela, moi, je pense, J.R., que la solution, la liberté pour qu'elle devienne vraiment une réalité en République démocratique du Congo, il appartient à nos chers journalistes de tout faire pour arracher cette liberté-là.
Voilà, donc pour vous, les journalistes doivent normalement prendre conscience de leur profession et aussi comprendre que la meilleure protection, c'est celle qui est assurée par eux-mêmes, journalistes, et comprendre les temps et les circonstances, parce que en réalité, sur le terrain, ceux qui sont censés protéger ces derniers, ils ne les font pas comme il le faut, alors il faut d'abord commencer par se protéger soi-même. Merci beaucoup, Maître Adrien, d'avoir appelé. On va prendre Dieudonné, qui est toujours dans la même ville que vous. Dieudonné, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour J.R. Lungembo, merci de la parole. Permettez-moi d'abord de rappeler que la liberté de presse qui est au centre de la question d'aujourd'hui a pour élément essentiel l'expression. qui s'avère être le droit, qui s'avère être le fondement des droits et des libertés démocratiques. Elle a été considérée par les Nations Unies comme un droit humain fondamental et la base de toutes les libertés auxquelles les Nations Unies sont vouées. Elle est essentielle en fait qu'elle aide au fonctionnement d'une démocratie et à la participation à la prise de décisions publiques. Les citoyens ne peuvent pas, par exemple, exercer leur droit de voter s'ils n'ont pas accès à l'information et aux idées, s'ils ne peuvent exprimer leur opinion sans crainte. Mais hélas, qu'est-ce que nous constatons? Dans notre pays, le droit de la presse, la liberté d'expression, la liberté de la presse est bafouée. Cette dernière est considérée sous d'autres cieux comme un quatrième pouvoir. Elle est une loupe pour juger les actions des politiques et représente l'intérêt non seulement pour la population, mais aussi pour les dirigeants. Alors, tel que vous l'avez présenté, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de cas qui sont arrivés en République démocratique du Congo où les journalistes ont été maltraités, certains même morts. L'exemple de Serge Maïeshe. Un autre exemple aussi, c'est celui de M. Palat de CCTV, détenu dans la prison et libéré par la suite. Il y a aussi un journaliste qui avait publié les conflits entre le gouverneur, l'ex-gouverneur Kapuku et Luandanda à Kananga. Il a été poursuivi, il est parti de la ville, on ne sait même pas là où il se trouve, s'il est en vie ou pas. Mais pour donner réponse à la question que vous avez posée à l'émission, nous pensons qu'il faut d'abord procéder à l'autonomisation de la presse, surtout de la presse publique, qui fait à deux fois la campagne pour les dirigeants au pouvoir, qui le manigancent comme ils veulent. Il y a aussi un autre point. Le deuxième point c'est qu'on peut faire, c'est l'interdiction aux politiciens d'avoir leurs propres médias.
Oui, si vous pouvez répondre, Dieudonné, vous avez commencé par, depuis cette solution, vous avez donné quoi, concrètement?
Nous avons pensé à l'autonomisation de la presse, surtout celle publique.
L'autonomisation de la presse publique.
Oui.
Et puis
en plus, l'interdiction aux politiciens d'avoir leurs propres médias. C'est après un constat que nous avons fait, les déclarations qui passent sur les chaînes appartenant aux politiciens, à des fois déforment l'information pour l'intérêt de la classe dirigeante au pouvoir. Je ne peux pas donner plus de détails parce que c'est vraiment des cas que nous vivons chaque jour. Et troisième point, nous pensons aussi à la professionnalisation du domaine du journalisme. Dans notre milieu, nous constatons qu'il y a des journalistes sans formation, des gens qui se sont rendus compte qu'ils parlent un bon français, ils peuvent être journalistes sans aucune formation. Quand ils prennent une information, ils peuvent la diffuser de façon que ça peut créer la haine, ça peut créer des conflits. C'est pourquoi, des fois, on les poursuit par les autorités. Ce n'est pas toujours de la faute des autorités, mais à des fois, les journalistes non professionnels commettent beaucoup d'erreurs. D'où il faut...
Voilà, Dieudonné.
D'où il faut...
Dieudonné. Je reprends mot à mot. Je crois que M. Adrien revenu sur certains aspects des choses, en définissant d'ailleurs la liberté de la presse, qui en fait est consignée dans les différentes lois de la RDC. Il suffit de l'appliquer ou d'appliquer ces textes pour qu'on arrive réellement à cet objectif. Voilà, parce que les journalistes doivent normalement, selon lui, prendre conscience aussi de leur travail, hein, des risques qu'ils encourent, et aussi la meilleure protection, c'est d'abord même les journalistes, pour ne pas au fait tomber sous le coup parfois des diffamations ou tant d'autres. Alors vous avez ajouté, vous avez parlé même des conflits qui a opposé, le conflit qui a opposé l'ex-gouverneur Kapuku et monsieur Luandanda qui en fait est porté disparu jusqu'à ces jours. On ne sait pas, il y a des procès interminables. Alors vous proposez trois pistes de solutions pour arriver à redoubler l'effort afin de promouvoir et protéger les droits d'accès aux sources d'information pour les journalistes à RDC, notamment l'autonomisation de la presse publique, l'interdiction aux politiciens d'avoir des chaînes de télévision, et puis la professionnalisation, selon vos propres mots, de l'exercice de métier. Il ne faudrait pas se contenter des petits procès qu'on parle pour au fait passer pour un journaliste. Voilà. Merci beaucoup, Dieudonné. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter.
Oui, il y avait un élément qui répétait aussi la non-immission du gouvernement dans le secteur pour assurer la bonne indépendance de la presse. Hein, c'est aussi un élément important que je voulais ajouter.
Merci beaucoup Dieudonné d'avoir appelé de Kananga. Nous allons prendre David Mokili. David, vous êtes avec nous. Bonjour David.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous avez la parole David.
Merci beaucoup monsieur le journaliste pour cette parole que la radio de la paix m'accorde à ce jour.
Oui, David, laissez-nous quand même vous dire que... David, s'il vous plaît, parce que quand vous nous avez écrit votre message, vous avez dit que vous étiez surpris hein, d'apprendre qu'on a décrété quand même la journée internationale de lutte contre les crimes commis contre les journalistes, voilà.
Merci beaucoup. Donc je profite aussi de l'occasion pour saluer le journaliste Jean-Paul Bassi, là, et José de Sartre-Mengue de la radio Capi, ici à Bounia. Je commence par rendre hommage aux journalistes de votre radio de la paix, qui ont succombé parce qu'ils sont au Sénat du micro. Que le Seigneur leur accorde chacun un siège sur la liste des journalistes de l'Assemblée du ciel.
Oui, David.
Oui.
Je ne sais pas si vous êtes dans une maison là.
Oui, je suis à l'intérieur.
Voilà, vous êtes à l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, peut-être vous déplacer un tout petit peu, parce que là, vous sortez entrecoupé.
Oui, je me déplace déjà.
Voilà, allez-y maintenant. Vous avez dit dans votre message que vous étiez surpris d'apprendre que les Nations Unies viennent de décréter cette journée.
Oui, effectivement, je suis surpris. Ma surprise, c'est justifié. Quoi? Donc, par cette journée, je me suis dit que les Nations Unies est en train de consacrer tout simplement une discrimination pure et simple. Il y a plusieurs journalistes qui ont dit leur vie tout simplement parce qu'ils étaient des journalistes. Notamment ici au niveau de Bounia, il y a un journaliste qu'on appelle Gilles Sanjabo qui avait été retrouvé assassiné, j'étais dans l'eau parce qu'il était journaliste. Il y a Serge Maeche, il y a Didas Namuzinda au niveau de Bukavu, il y a Norbert Zangu au Burkina Faso, il y a Jérôme Gongo et plusieurs autres journalistes qui ont perdu leur vie tout simplement parce qu'ils étaient des journalistes. Alors, je me pose plusieurs questions. Est-ce que, depuis la création du ciel et de la terre, c'est seulement Ghislaine Dupont et son collègue qui ont perdu leur vie simplement parce qu'ils étaient des journalistes? Ça, c'est un questionnement qui m'arrive. Est-ce que c'est Ghislaine Dupont et son co-défunt qui sont les meilleurs journalistes que les Globes produit depuis la création? Est-ce que c'est parce que la RFI est une meilleure radio du monde qu'il faut honorer ces journalistes? N'y a-t-il pas des journalistes au monde et en Afrique et au Congo même qui abattent des travaux louables même plus que Dupont et son collègue? Voilà autant de questionnements, monsieur le journaliste, soulevés par cette fameuse journée consacrée à la lutte contre l'infinité des crimes commis contre les journalistes au monde. Répose justement à toutes ces questions. Mmh. Et que la discrimination est rendue maintenant officielle par les Nations Unies à faveur de la Radio France Internationale. Les Nations Unies ont rendu officiel le racisme. C'est tout simplement un racisme grave à l'échelle internationale. Sur quoi seulement Ghislaine Dupont et son collègue meurent, donc on a fait un très grand problème, toute une journée internationale des Nations Unies, comme si depuis que le ciel avait été créé, ce n'était que les deux journalistes qui ont abattu des travaux louables au monde.
Voilà, merci beaucoup David Mokili d'avoir appelé de Bounia 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Okapi Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les nouvelles du site web de la radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les enfants sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungemo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, ce magazine d'échange citoyen. Nous recevons pour vous, par rapport à cette thématique, Jean-Marie Kassamba, qui est avec nous, patron de Télé 50, président de l'UNPC Kinshasa, journaliste et parmi tant d'autres qui ont travaillé avec Gisèle Dupont, disons pendant près de 10 ans, je crois, si je ne m'abuse. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Voilà, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui vous avez suivi quand même les auditeurs. Pourquoi seulement avoir attendu l'assassinat de Ghislaine Dupont pour que le monde se réveille? Il y a David qui a dit tout à l'heure, c'est comme si le monde commence maintenant, après le monde du journalisme, des médias commence avec l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Arnaud.
Bon, d'abord, je dois saluer tous ceux qui nous suivent à travers le monde via Radio Okapi, et je suis content d'être votre invité aujourd'hui. D'abord, Ghislaine Dupont, c'est une collègue, et Claude, qui, pendant 10 ans, nous avons été des collègues à Radio France Internationale, et la dernière fois que je l'ai vu, Claude, c'est pendant le sommet de la francophonie, parce que j'avais été le président de la commission communication, il était venu pour superviser la retransmission en direct, et Ghislaine, c'était une semaine avant que les événements du Mali se produisent, donc on échangeait. Parce qu'effectivement, j'étais en train de planifier Télé 50 aussi. Je pense que la journée en elle-même n'est pas une exception. Pourquoi ? Parce que notre métier, c'est un métier d'abord à risque, comme le métier d'homme en armes, comme le métier... tout métier, c'est un métier exposé, c'est un métier qui comporte des risques. Des risques, pourquoi ? Parce que nous touchons aux matières sensibles. Pourquoi ? Parce que l'information, c'est le pouvoir, donc il y a le jeu d'intérêt, il y a naturellement l'influence et le lobbying. Donc si vous portez atteinte à un pouvoir quelconque, vous risquez d'une manière ou d'une autre à perdre votre vie, à subir des intimidations, des pressions, etc. Donc c'est tout à fait naturel que notre métier comporte des risques souvent assez élevés. Moi-même, j'ai été victime de beaucoup de pressions, et j'ai été même enlevé, pour vous dire, au Gabon, lorsque j'étais parti dans le cadre de mes émissions à Télé-Sud, pendant 48 heures, donc parce que j'avais interviewé des opposants, et les pouvoirs m'avaient enlevé à l'époque. Donc c'est pour vous dire que c'est tout à fait naturel. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les journées décrétées mondialement peuvent apporter quelque chose. Ce sont souvent des journées symboliques. Symboliques parce que, au niveau des Nations Unies, il y a des membres permanents. La France en fait partie. Et lorsque un des membres permanents veut faire prévaloir son influence à travers le monde, il peut utiliser les Nations Unies pour soit faire voter telle ou telle résolution. On le vit avec Israël, on le vit avec les États-Unis, etc. Et si symboliquement, pour honorer Ghislaine et Claude, on peut utiliser symboliquement cette journée-là pour s'en rappeler, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas en soi une exception extraordinaire pour nous protéger. Nous devons être protégés tous les jours. Nous devons être suivi tous les jours. Et les crimes contre nous, journalistes, ce sont des crimes qui doivent être punis. On a rappelé tout à l'heure, ça fait ici chez nous,
ou ailleurs en Afrique,
etc. Mais également en Afrique, Zongo, et puis dans d'autres pays, en France par exemple. Est-ce que vous savez qu'en France, il y a des journalistes comme celui qui vient de publier un livre sur la famille Bongo? Pierre Péan, qui est poursuivi, Ziegler, poursuivi, celui qui était au Monde, de Mediapart, par exemple, qui a révélé beaucoup de scandales par rapport à Sarkozy et ses affaires, poursuivi aussi, donc c'est tous les jours. Aux États-Unis, l'affaire...
Non, non, pas d'ailleurs.
Donc, Irene Gates, etc. Donc, c'est partout dans le monde. Ce n'est pas une exception de dire, oui, on va seulement miser sur des violations des droits de l'homme en matière de presse seulement en Afrique. C'est partout.
Oui, mais en marge de la première célébration de cette journée, la semaine dernière, Désiré Kazadi, directeur de l'association de défense de la liberté de la presse, FFJ, a fait savoir que l'RDC comptait, selon les différents rapports, parmi les pays prédateurs de la liberté de la presse. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez.
Non, je pense que c'est une exagération. C'est une exagération parce que moi, j'ai les derniers rapports des Reporters sans frontières. Moi-même, je suis membre de l'association de la presse panafricaine à Paris, j'en suis le vice-président, donc nous avons tous ces rapports à travers le monde. Le Congo n'est pas du tout l'un des pays où, effectivement, où il y a la prédation à outrance des droits des journalistes. Bien au contraire, le Congo a beaucoup de médias d'expression. Nous avons ici chez nous une cinquantaine de chaînes de télévision, autant de chaînes de radio, des journaux, etc. Il y a des débats, comme ici à Radio Capi, moi j'écoute régulièrement, les interventions, tout ce qui s'exprime librement dans nos médias ne sont pas l'option, enfin, l'objet de poursuites. Il y a des exactions, naturellement, qui ne relèvent pas souvent des pouvoirs publics. Il y a parfois de règlement des comptes. Le règlement des comptes entre personnes, entre des intérêts. Il y a des journalistes qui touchent aux intérêts des personnes, à leur business, et des journalistes eux-mêmes qui sont complices dans telle ou telle démarche. Et quand il arrive quelque chose, on met souvent, malheureusement, sous le dos du pouvoir public. Ce qui n'est pas le cas. J'ai un exemple total du pouvoir public. Ça n'arrive pas que le pouvoir public aussi soit complice de quelque chose. Mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas faire l'amalgame. L'amalgame de dire tout ce qui arrive aux journalistes, c'est dur.
Le commissaire, c'est le pouvoir.
Non, c'est trop facile. Vous allez par exemple à Honduras, vous allez par exemple suivez ce qui se passe en ce moment au Mexique. Les journalistes sont complices des enlèvements là-bas et l'État maintenant poursuit même les journalistes des complices.
Mais en RDC, au fait, la complicité du pouvoir public est fait, au fait, un état d'exergue dans la mesure où on a vu des procès interminables. Je peux citer les cas de Sanguiquet, Serge Maïché, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas. On a l'impression que c'est pratiquement la continuité.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Qu'il y a des individus qui peuvent être détenteurs de pouvoir public, que ce soit des policiers, que ce soit des ministres, des députés, etc., qui se méconduisent. Et lorsque les journalistes interpellent ces gens ou dénoncent leur comportement, ces gens-là usent de leur pouvoir, de leur positionnement pour rendre des comptes aux journalistes. Mais je ne pense pas qu'il doit y avoir une volonté, on va dire, institutionnelle, consistant à dire il faut brimer les journalistes, il faut assujettir la presse. Je ne pense pas. Je vous donne un exemple simple. Je ne vais pas engager une polémique, mais vous prenez le cas de Franck Guiquier, par exemple. Moi, j'ai fait des enquêtes là-dessus. Et ça relève que ce n'est pas à 100% des pouvoirs publics. Il y a eu des intercations, on va dire, personnelles, au titre des choses qu'il pouvait faire à titre personnel avec des collaborateurs ou des gens pour lesquels, ou avec lesquels il faisait des choses. Et une fois qu'il a été victime avec sa femme, on a associé le pouvoir public. Donc vous comprenez que aujourd'hui je suis président de l'UNPC au niveau de la vie d'équité. Mon travail, c'est de protéger les journalistes, les vrais journalistes. Pourquoi ? Parce que celui qui ne connaît pas l'éthique et la déontologie professionnelle, celui qui ne connaît pas les limites, qui ne connaît pas les droits et les devoirs, qui ne sait pas que l'information, ça doit être sourcée, ceux qui profitent de ce métier pour faire du rançonnement, pour faire du chantage, pour faire de la diffamation gratuite, et tout ceci pour mettre sur le dos de journalisme, ça porte atteinte à cette profession. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a des gens ici, dans notre pays, qui ont des publications sans autorisation de paraître, qui n'ont même pas la carte de l'UNPC, en tant qu'institution qui regroupe les journalistes, qui n'ont même pas fait des études, on va dire, adaptées pour traiter l'information, collecter l'information, diffuser l'information, et un matin, ils se réveillent, ils disent, voilà, oh, j'ai un journal, je publie sur Internet, ou je passe à la télévision, je commence à raconter des choses. Alors, si, effectivement, vous portez atteinte à quelqu'un, dans son
intérêt.
La personne va essayer d'entrer dans ses droits. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il ne faut pas confondre la liberté d'exercer notre métier et la liberté aussi de l'autrui, de jouir de ses droits. Parce que si un ministre, effectivement, a détourné, il faut dénoncer. Si un ADG a effectivement détourné, il faut dénoncer. Mais lorsque vous n'avez pas des éléments,
vous n'avez pas qualité, par exemple, parce que vous n'êtes pas journaliste.
Absolument.
Vous allez.
Alors, vous êtes manipulé par l'opposant à ses ministres ou à cet ADG, qui arrive, qui vous donne de fausses informations. Oh, voilà, il a détourné ici, il a fait ici, écrivez dans votre journal, comme ça on va l'éclabousser. Le monsieur, le lendemain, il porte plainte contre vous. Il dit voilà, prouvez que ce que vous avez écrit, c'est vrai.
Et là, vous allez répondre devant la justice par rapport à ça. Oui. On va retourner de l'autre côté des standards pour prendre Maurice qui est à Kinshasa, Fabien Calémy et professeur Robert de la ville-province de Kinshasa. Maurice, bonjour.
Bonjour, Nguembo.
Vous avez la parole, Maurice. Votre point de vue.
Je commence à rendre aussi un hommage mérité à Justin Dupont et Claude Verlon qui ont payé de leur vie dans les cadres de leur travail. Je voudrais également aussi rendre hommage à Gilles Lungembo, le coordonnateur présentateur de notre émission, l'émission la plus suivie de la RDP. Et rendre hommage à d'autres journalistes qui font du bon travail. Je citerai d'autres comme Piro à Radio Capi, je citerai comme Fidel Moustangou et j'en passe. Alors, je voudrais dire ceci. La RDC est parmi les pays prédateurs de la liberté de la presse. On ne doit pas faire débat. C'est vrai. Alors, mais je dois encore dire ceci, que je n'ai jamais vu au monde une presse libre, indépendante, dans un régime tyrannique comme le nôtre ici. Je ne l'ai jamais vu. Alors, je commence par dire ceci. À côté du régime, il y a aussi la responsabilité de la presse elle-même, comme votre invité l'a bien dit. Hein? Qu'est-ce que nous constatons? Qui galvaude l'image, qui ternit l'image de la presse? Ce n'est pas seulement le régime, c'est aussi vous-même les acteurs de cette presse, les journalistes. Lorsque les journalistes s'arrogent à publier des mensonges, à insulter, et à calomnier de hautes personnalités de ce pays, des hommes d'église, des personnalités politiques, et gratuitement. Lorsque une certaine presse consacre même du temps, fait des émissions exclusivement et spécialement juste à vilipender des icônes de ce pays, et cette situation est favorable au régime. Vous voyez comment vous pêchez vous-même à la déontologie et à l'éthique professionnelle. Donc c'est là la responsabilité même de cette
chaîne. Oui, Maurice, il y a un de vos prédécesseurs, Dieudonné notamment, du Kananga, qui a proposé en fait une petite solution, en parlant de l'autonomisation de la presse publique, l'interdiction aux politiciens d'avoir leur chaîne de télévision ou chaîne de radio, et puis la professionnalisation de l'exercice du métier. Donc, comment vous réagissez-vous personnellement?
Non, en fait, je pense que l'interdiction aux politiciens d'avoir leur presse, moi je pense que c'est pas en fait rationnel. Hein? Tout individu qui remplit les conditions requises pour avoir un média, moi je pense qu'on ne doit pas quand même atteindre la liberté à cette personne. Il doit faire son travail, il doit ouvrir sa maison de presse, mais il doit se conformer, cette presse doit se conformer à la déontologie, à l'éthique professionnelle. Hein? Donc cette image-là, je dis, cette image est plus sapée par vous-même, les acteurs de la presse. Mmh. Donc vous devrez quand même vous amender. Mmh. Donc merci. C'est ici le temps de faire un état de lieu de votre travail.
Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa. On va prendre Fabien qui est à Calémy. Fabien, bonjour. Fabien, vous êtes avec nous. Bonjour, Fabien. Voilà, il n'est plus en ligne, on va prendre plutôt professeur Robert, qui est à Kinshasa, à l'Unikin. Prof, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Vous avez la parole, professeur Robert.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, on va plus bien.
Je vous écoute, quelle est la question?
Voilà, la question aujourd'hui, selon vous, que faire pour redoubler l'effort pour promouvoir et protéger les droits d'accès aux sources d'information pour les journalistes à RDC? C'est un rapport d'ailleurs à cette journée qui vient d'être décrétée par les Nations Unies, le 2 novembre, désormais c'est la journée internationale de lutte contre l'impunité et des crimes commis contre les journalistes. Alors c'est à la mémoire de Justin Dupont et Claude Verlon, tous deux journalistes de RFI, assassinés en 2013 à Kidal, au Mali.
Oui, ok, je vois que le problème de la presse, vous savez que la presse est un quatrième pouvoir. C'est un pouvoir complet. Alors, toute personne qui s'adonne à ce métier, qui est dans un pays, jouit de cette liberté de faire son travail de journaliste dans les conditions requises dans notre constitution et surtout, il doit jouir d'une protection aussi du pouvoir public. Parce que, tout en étant un quatrième pouvoir, il a toute la liberté d'informer, d'éduquer même le peuple, parce qu'il y a des émissions que vous pouvez émettre qui éduquent.
Qui éduquent, voilà, qui informe aussi.
Exact. Alors, si par exemple, on déraille, on va au-delà de ses attributions, on exagère, je crois que la personne, surtout en ce qui concerne les hommes politiques ou même les opérateurs économiques, lorsque on est accusé, on trouve dans un journal des pages entières où on est calomnié, où on est vilipendé, où on est... On vous accuse de toutes sortes de choses que vous ne connaissez pas. Donc...
Donc, vous êtes dans plein droit d'amener ces juristes en justice. Voilà, merci beaucoup.
Là, il n'y a pas de preuves.
Oui, quand il n'y a pas de preuves, vous tapez.
Toute action que vous devez rédiger doit être assortie d'une preuve.
Donc, ce que nous appelons les traitements objectifs d'information, il faut avoir la source, une bonne source d'information pour permettre d'appliquer. Mais le problème aujourd'hui, c'est des barrières que les journalistes rencontrent aussi, hein, pour accéder aux informations. Voilà, donc ce sont des aspects que, sur lesquels doivent tabler, notamment des instances ou des organes qui gèrent les journalistes à travers le pays. Merci beaucoup, Robert. 081-890-7315 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs. C'est vrai, il y a pas mal de préoccupations, pas mal d'appréhensions également. Bon, il y a quand même beaucoup de passions aussi. C'est vrai, d'une part, on responsabilise le pouvoir public, et d'autre part, il y a aussi une responsabilité des journalistes eux-mêmes, des journalistes que nous sommes.
Oui, absolument. Il faut que, si vous voulez exercer dans un domaine, il faut d'abord en maîtriser les contours. Pourquoi ? Parce que si vous voulez être médecin, il faut aller dans une école de médecine. Si vous voulez être ingénieur, il faut connaître comment ça fonctionne. Mmh. Et le journalisme, c'est un métier qui s'apprend, qui a ses techniques, qui a aussi un comportement, ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie professionnelle. Mmh. Et puis aussi, c'est un métier qui évolue dans un environnement. Le journaliste n'est pas un citoyen qui fonctionne en électron libre. Parce que, aux côtés des journalistes, il y a aussi d'autres corps de métier. Donc, nous ne vivons pas dans un monde isolé quand on dit protéger les crimes contre les journalistes. Cela veut dire qu'il faut que nous soyons protégés par rapport à l'exercice de notre profession. Mais cet exercice doit se faire dans les normes. La difficulté dans notre pays, c'est que, à un moment donné, c'est aussi la même chose que la société civile, vous savez. Aujourd'hui, on dit société civile. Mais c'est un terme galvaudé. Cela veut dire tout et son contraire. C'est que donc dès que vous trouvez un domaine dans lequel vous ne pouvez pas vous exercer, vous créez une association, une ONG. Et cette ONG, déclarée ou pas déclarée, avec des objectifs clairs, pas clairs, comme vous savez qu'on peut trouver des subventions dans le monde, je dirais, occidental ou dans d'autres pays qui peuvent vous donner des subsides, etc. Alors, vous créez des raisons d'être et vous devenez une société civile. Et quand vous regardez très bien, la plupart de ceux qui militent vraiment finissent soit des politiciens, soit des députés, soit de... En réalité, ils visent autre chose que la défense des intérêts de la population au sens civil du terme. Et parfois, les journalistes, dans notre pays, pratiquent de cette manière-là. Je peux catégoriser ça en trois
classes principales. Il y a d'un côté les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire les politiques, qui pensent que pour régenter la société, il faut détenir des médias. Et ça, ça ne date pas de maintenant. Depuis les années, même pendant la période coloniale, il y avait des médias des catholiques, des protestants, des médias aussi d'État. Pendant la période de Mobutu, il n'y avait que des médias d'État. Et tout le monde fonctionnait qu'aux Russes, pour la gloire du maréchal, etc. pendant longtemps. Et tout le monde, enfin, certains se disaient journalistes.
Mmh.
Enfin, journalistes au sens propagande du terme. Depuis qu'il y a eu la démocratisation, depuis 1990, il y a multiplicité d'organes de presse. Maintenant, cette catégorisation est, d'une part, ceux qui sont cherchés au pouvoir, et d'autres qui ne laissent pas, c'est-à-dire qui sont dans l'opposition. Ceux qui sont dans l'opposition, ils sont dans une posture de dénonciation, dans une posture quelquefois même de manipulation et de mensonge, souvent. Pourquoi ? Parce qu'il faut discréditer ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir sont dans une posture de propagande ou même, je dirais, d'invective.
Et pourtant, les choses ne peuvent pas normalement fonctionner. Ça ne s'est pas fonctionné
la
normale.
Et les journalistes jouent allègrement ces rôles-là. La troisième catégorie, ce sont les hommes d'église. Aujourd'hui, on ne les dit pas assez. Il y a suffisamment de médias, trop de médias d'ailleurs, qui font que de la propagande, on va dire, spirituelle, à longueur de journée. Sans même respecter l'éthique à l'industrie professionnelle en la matière. Ok, la plupart des cas, ces émissions doivent être soit d'évangélisation, d'explication, etc. Mais à longueur de journée, on nous montre des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Les miracles, les prédications, etc. L'endoctrinement des masses. Et quelquefois même, on pousse la société à une certaine léthargie. Comment quelqu'un peut rester du matin au soir en train de prier, il ne peut pas aller travailler, il peut pas voyer. Donc ça, c'est entretenu aussi par ceux qui disent, c'est les journalistes. Nous, comme étant...
C'est ce que vous êtes, pas trop des chaînes que vous êtes.
En cas, oui,
pas trop des chaînes de télé, pas trop des chaînes de radio. Qui ne présentent pas une grille claire ou encore un cahier des charges.
En tout cas, en ce qui concerne, regardez Télé 50, écoutez Radio 50 maintenant, nous faisons un effort de professionnaliser nos employés. Moi, j'en ai 200 aujourd'hui qui travaillent pour moi.
Et c'est ce qu'a proposé d'ailleurs un auditeur.
Absolument. De professionnaliser, ça veut dire quoi ? J'ai les formes moi-même. J'ai les formes aux techniques des traitements d'informations, des décisions, des présentations, d'objectivité, même si dans notre métier, l'objectivité, au vrai sens du terme, et quel que soit le pays, et je le dis, et je souligne, ça n'existe pas. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, au Japon, en France, tous ces médias sont, d'une manière ou d'une autre, au service d'une cause. Vous avez écouté tout à l'heure un compatriote de l'Est qui disait « Pourquoi seulement Justine Dupont et Claude Verlon ?» Pourquoi ? Il y a autant de journalistes qui sont victimes de privations, etc. Il y a une certaine hégémonie des médias du phare qui arrivent à imposer leur prédominance.
Mais Jean-Marie, avant qu'on repasse de l'autre côté du standard, il y a une question qui me vient vraiment à l'esprit, et c'est par rapport d'ailleurs à notre thématique. Aujourd'hui, on est conscient que la plupart des vrais journalistes qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leur métier, c'est au fait de n'avoir pas eu accès à l'information, si pas en temps réel, mais peut-être aussi l'information pas telle que voulue par le pouvoir public ou encore d'autres personnes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement
pour accéder vraiment à l'information ? Pour accéder aux sources d'information, il faut d'abord maîtriser les contours. Ça veut dire quoi maîtriser les contours ? Aujourd'hui, l'information, elle est à la fois ouverte et fermée. Celle qui est ouverte est via les autoroutes de l'information de la communication, l'Internet. Tout est ouvert aujourd'hui. Il y a peu d'informations qui se cachent. Si vous voulez savoir les rapports d'un gouvernement, la manière dont un pays est géré,
la gouvernance,
la production des entreprises, vous pouvez aller facilement sur des sites de l'ONU, de la Banque mondiale, tout est publié aujourd'hui. Mais si vous êtes journaliste, vous n'avez même pas la connexion Internet. Vous n'allez même pas dans le cyber pour aller chercher l'information. Vous ne pouvez pas accéder aux sources. Deuxièmement, les journalistes qui essaient d'approcher les politiques, souvent c'est dans une posture de demander de l'argent. je ne dis pas tout le monde le fait, mais la grande majorité, c'est ils viennent dans une posture de dire « Excellence, s'il vous plaît, je peux communiquer pour vous. »
Phénomène coupage.
Coupage. Mmh. On dit qu'il paye commande. Si quelqu'un vous donne son argent, et puis le lendemain, il voit vous publier dans la presse quelque chose qui les gêne, forcément, il va vous demander des comptes. Est-ce que vous comprenez ?
Tout à fait.
Lorsque vous faites votre métier de journaliste, vous traitez l'information, vous donnez ce qui est bon, vous donnez ce qui n'est pas bon. Et que la personne vient dire, mais écoutez, vous avez donné cette information, mais j'avais le droit de réponse, je vais compléter par rapport à ce que vous avez donné comme réponse. Eh bien, c'est son droit aussi de répondre. Mais non, vous pouvez facturer si c'est de la communication. C'est comme ça qu'on gagne notre métier. On facture la communication. On diffuse l'information gratuitement, mais la communication, on la facture. Donc, il y a un peu la culture du moindre effort. Vous savez, quand je suis arrivé ici à Radio Capu, je vois ça travaille. Ça tourne, ça internet, etc. Ça fonctionne. C'est comme ça qu'on travaille. Il y a des rédactions qui ne fonctionnent que dans les mallettes. Et les journalistes, ils tournent dans des halls de chaise.
Il n'est pas interdit la familiarité avec le pouvoir public. Le journaliste, pour d'abord accéder à certaines informations, il faut quand même avoir aussi une carte de visite.
Absolument,
sinon,
absolument, absolument.
Parce que je voulais sans bottes, sans carte de visite, sans l'autorité, mais je crois que...
Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut... En quelque sorte, entretenir des relations.
Mais le contour.
Oui.
C'est pour ça que vous avez appelé
le contour. Ça veut dire quoi ? Un journaliste qui n'est pas crédible, il ne peut pas être collaborateur, pour ne pas dire partenaire. Et ce sont même les institutions internationales. Est-ce que vous voyez, par exemple, les grandes autorités qui arrivent dans nos pays d'Afrique ? Je ne dis pas seulement ici au Congo, moi j'ai vécu ça dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ils ne donnent pas crédit aux médias locaux. C'est pas parce qu'ils ne les respectent pas, parce qu'ils trouvent qu'il y a parfois une dose d'amateurisme dans ce qu'ils font. Il faut que le journaliste lui-même se crédibilise pour que le politique le respecte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelqu'un lit votre papier, il écoute votre analyse, qu'il sente que j'ai affaire à quelqu'un qui connaît de quoi il en retourne. Ça, c'est très important. Maintenant, lorsque vous approchez un acteur, que ce soit un politique, etc., posez-lui des questions. On ne pose pas des questions, JR. Souvent, les gens donnent leur point de vue personnel, leur sentiment. Or, notre mission à nous, c'est de poser des questions. Demander, voilà, la MONUSCO, vous êtes déployé à l'Est depuis un certain temps. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'à Béni, ça tue, dans quel coin ? Pourquoi ça ne marche pas ? Question directe.
Et d'ailleurs, en passant, c'est pour annoncer d'ailleurs le sujet de lundi déjà, où on reviendra un an après la victoire sur la M23. Oui. Quel est le bilan à faire autour de la sécurité dans l'est du pays ?
Absolument.
Parce que les choses bougent un peu. Oui. Donc on reviendra. Donc, c'est juste une parenthèse que je vais faire
rapidement. Nous ne devons pas absolument nous victimiser, souvent dire oui, on nous empêche d'accéder aux informations, c'est pour cela que c'est difficile pour nous. Mais c'est un rapport de force. Vous n'allez pas quand même demander aux politiques de s'exposer, aux gestionnaires de s'exposer, de vous donner les bâtons pour que vous les tapez avec. Recherchez ces informations. Et lorsqu'ils vont sentir que vous avez eu accès aux informations sensibles,
ils vont faire de vous.
Ils vont faire de vous. Ils vont vous rapprocher pour vous dire, écoutez, c'est pas vraiment ça, mais en réalité, il y a ceci, etc. C'est pour ça que les disciplines comme les lobbying, comme les relations presse, comme ce qu'on appelle les attachés de presse, les services de communication, des ministres, des députés, de toutes ces entreprises existent. Ça existe pourquoi ? Parce qu'il faut un lien avec la presse pour donner de vraies informations.
Les lobbies au niveau de la corporation, disons, il y en a de moins en moins. Hein. Donc finalement, ça n'existe pas. On n'a pas confiance à Jean-Marie Kassamba, on n'a pas confiance à tel, on n'a pas confiance à tel, parce que bon, on s'est dit, si jamais celui-là est là, bon, c'est un monde d'intérêt, personne ne veut approcher personne.
Mais écoutez, moi, quand je vais aux Nations Unies, quand je vais à l'Élysée ou à l'Union africaine, vous trouvez des journalistes qui déjeunent avec les ministres, les députés, etc. C'est là où ils échangent des informations. On appelle ça les off. Les off, c'est lorsque on vous donne des informations que vous ne pouvez pas publier, etc. Parce que vous avez une certaine proximité. Il faut que ceci se crée ici. Le travail que nous allons faire ici, c'est d'abord identifier les vrais journalistes, les équiper. Je vous informe d'abord que nous avons déjà trouvé un cadre pour avoir la première fois ici à Kinshasa un bureau
de l'UNPC.
De l'UNPC Kinshasa. Ensuite, nous allons aménager ces endroits pour permettre quoi que les gens se viennent travailler dans un local où ils peuvent aller sur Internet, avec un local où on peut tenir nos points de presse, on fait venir les gens, on leur pose des questions.
et on pourra peut-être un petit coin studio pour que ceux qui n'ont pas les B.A.B.A.
Apprendre,
etc. Voilà, c'est ce travail là qu'on doit faire. Mais pour bien le faire, il faut aussi qu'on puisse nettoyer. C'est excessivement important. Si on ne nettoyait pas ces secteurs,
donc il faudrait vraiment passer à la vitesse
noire, comme on les appelle.
De l'assainissement, ça vaut quand même le
coup. Qui passe aussi,
voilà.
Ça donne des mauvaises.
On va prendre notre série des auditeurs et puis on reviendra à vous, à Jean-Marie Katamba. Et voilà, donc c'est comme d'ailleurs que vous avez été élu président de l'UNPC Kinshasa. Moulunda Kamina, docteur Richard Kinshasa et Clovis Aménéditou. Moulunda, bonjour.
J'ai dit bonjour à tous les auditeurs de la Radio Pacifique. J'ai dit aussi bonjour à Jean-Marie qui est avec nous.
Bonjour.
Alors, je voulais intervenir dans le sens où je disais, il y a un problème aussi qu'on laisse passer comme ça, il y a la rémunération du journaliste. Les journalistes qui plaident pour les magistrats, qui plaident pour les enseignants, qui plaident pour... qui sont parce que nous disons que c'est un pouvoir. Il faudrait qu'ils soient aussi rémunérés favorablement, qu'ils soient bien payés. Alors, il va faire bien son travail et l'indépendance du métier. Lorsque le métier n'est pas indépendant, alors ça devient compliqué. Ici chez nous, par exemple, on a toutes les bonnes raisons de dire que la presse est bafouée. Et même les presses qui existent sont étranglées, sont déprimées.
Voilà.
En dehors de la radio, Capi, je le dis non pas que j'ai un souci, mais je dis en toute réalité. Les autres presses, passons par la presse d'abord qui est nationale, la RTNC, et là, vous voyez, on parlait toujours en faveur du pouvoir actuel. Vous voyez que là, il suffit que vous disiez ce qui est contre le pouvoir, alors vous ne disparaissez pas, vous êtes incarcéré, vous n'êtes pas incarcéré, vous êtes maltraité. C'est vraiment peut-être la mesure que je voulais proposer pour moi. Comme la presse sensibilise la population, peut-être nous, population, nous avons aussi le devoir d'être maintenant derrière les journalistes pour les soutenir, pour les protéger. Alors, c'est ce que moi je voudrais donner comme contribution, dire que la presse n'est pas soutenue, dire qu'au Congo, il y a la liberté de la presse, vraiment, ça serait se contredire.
Ça serait se contredire. Merci beaucoup. Donc, vous reconnaissez tout de même qu'il y a la liberté de la presse. Hein, RDC, vous devrez jeûner d'ailleurs notre invité, hein, qui a, au fait, brossé l'évolution de la presse ou le média RDC, en commençant par là, avant, disons, pendant la période coloniale et jusqu'à la Deuxième République, et aujourd'hui la situation que présente en fait le média RDC. Donc vous êtes fait une idée. Alors on va prendre également Dr Richard qui est à Kinshasa. Docteur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, bonjour à notre invité.
Bonjour.
Merci à tout le monde qui a parlé. Alors, moi, il y a une question que un participant à l'émission a posé et qui m'a beaucoup froissé. Il a demandé pourquoi on a attendu seulement que Jacques et Dupont
Jean-Claude.
Voilà. Alors, moi, voici ma réponse. C'est parce que ces pays-là valorisent leur peuple. Et nous ne valorisons pas les Congolais. Il y a eu massacre à Béni. Les drapeaux ne sont pas en berne. Il y a eu catastrophe naturelle.
Comment
ça a évolué lorsque un journaliste est tué pour des raisons nobles? C'est ça encore le problème. C'est ça le problème.
Qu'est-ce qui vous propose
avec une seule presse? Moi, je lisais Réveillez-vous, je lis jusqu'aujourd'hui ce que c'est pas publié. Je lis Agri-Promo, que c'est pas publié. C'est aussi une sorte de presse. Les gens croient que la presse, c'est quand on a parlé d'un ministre, quand on a parlé d'un président de la République, etc. Nous devons aussi dire à nos journalistes d'être éduqués pour le développement. Ceux qui sont en train de faire là-bas, aller faire le groupage auprès des hommes politiques, c'est aussi un signe de sous-développement sur le plan de la formation. Le Congolais a besoin de beaucoup d'informations dans beaucoup de domaines. J'avais parlé la fois passée de quand on a parlé de ces sacs.
Oui, des sacs avec Banjo Tepolo, oui.
À la publicité contre la bière. Mais il y a aussi les produits choco qui détruisent les gens. Pourquoi on ferme la bouche? C'est parce qu'ils ne sont pas informés. Voilà une presse que je peux dire mieux.
Vous pensez que pour qu'on arrive à redoubler d'efforts pour promouvoir et protéger les droits d'accès aux sources d'information pour les jeunes à RDC, il faut promouvoir plutôt le journalisme de développement.
Mais les jeunesse de développement et lui donner aussi la valeur humaine.
Oui, parce qu'on a l'impression que les jeunesse d'investigation, généralement, créent des problèmes.
Mais la valeur animale, on le prend pour un animal qui vient dans la poubelle du riche pour manger.
Voilà, merci.
On fait de lui ce qui se passe.
Docteur Richard, merci. Alors, Clovis, vous êtes à Moyen Bijou dans les Castailles. Bonjour, Clovis.
Bonjour Guillaume, bonjour à Jean-Marie et bonjour à tous les amis de la radio Papi.
Bonjour. Voilà, rapidement, quel est votre point de vue?
Bon, mon point de vue par rapport à la thématique du jour, je suis un peu pessimiste par rapport aux conditions que vit le journaliste congolais. Pourquoi aujourd'hui, on trouve qu'il y a aussi un problème que mon prédécesseur de Katanga parlait. Il n'y a pas seulement la rémunération suffisante pour un journaliste. Des fois, peut-être à Kinshasa, mais les presses locales, on trouve que le journaliste vit dans le bénévolat. Il y a un problème de contrat. Donc, à ce niveau-là, le journaliste doit rester fanatique pour vivre maintenant. Mm-hmm. Vous trouvez qu'il y a un problème. Le problème aussi de revaloriser le métier de quelqu'un. Et par rapport aussi maintenant aux chaînes de radio, mais quand on est engagé par un politicien, on est appelé à faire sa publicité. On ne peut pas dire tous ses défauts. Voilà maintenant le mal du journaliste qui est devenu maintenant subjectif par rapport à l'objectivité que l'auditoire est en train d'attendre. C'est ça aussi un problème qui est en train de détruire maintenant la liberté de la presse congolaise. Pourquoi? Parce que le journaliste lui-même ne sait pas se reconnaître qu'il est indépendant. Il est contraint par par les politiciens, il est contraint par ces gens-là qui lui donnent quelque chose. Donc, le manque de rémunération, le manque de contrats et aussi la professionnalisation du travail, voilà ce qui cause un problème. À ce niveau-là, je pense aussi qu'il y a un problème aussi de l'accès à l'information. Les détenteurs même de l'information
n'avons pas
du tout avec...
Voilà, notre invité a expliqué en loin large pourquoi alors les détenteurs d'information ne peuvent pas vous le donner aussi facilement. Il y a pas mal de contours. Donc, il faut maîtriser quand même le contour et il faut connaître le coin et le recoin et aussi, en tout cas, les tenants et les aboutissants de ce que vous faites. Merci. Clovis, on va prendre Daniel rapidement. Daniel, vous êtes à Lubumbashi, Daniel?
Bonjour, hier, bonjour à notre invité.
Oui, rapidement, qu'est-ce que vous proposez-vous pour promouvoir les droits à l'accès à l'information?
Hier, je voulais dire d'abord, je suis au Congo, nous avons un sérieux problème de crédibilité des médias. Un invité qui est au sud de Marie Katamba avec les 50, nous le suivons, nous savons de quelle tendance il est. Le problème de crédibilité des médias, c'est que l'information actuellement est le plus crédible qui provient de nos médias ici en Lubumbashi, hier, mais comment vous dire? Donc, tous les matins, quand vous décidez un peu de converser avec les amis, que ce soit au boulot, que ce soit dans un coin, si vous avez une information, les gens cherchent d'abord à savoir d'où vient-il cette information. Si vous dites que cette information est de la radio Capi, pour laquelle d'abord je vous remercie, l'information est plus comme crédible. Si on dit que cette information vient d'un média crédible comme RFI ou BBC, cette information est considérée comme crédible. Mais si vous dites que cette information est tirée de la RTLC ou des TL50, cette information est remise en cause. Pourquoi? Parce que quand un média se place déjà, montre déjà sa couleur, ça fait que le média qui donne la vraie information.
Et voilà, je crois que Daniel, Daniel, je vous coupe la parole un peu tout de suite parce que on sait tout de même que à la création d'une chaîne de télévision ou d'une radio, il est demandé, en tout cas au niveau des CSAC, nous avons fait l'émission ici, le cahier des charges est présenté. Donc je crois que c'est vrai que nous, observateurs, nous voyons les contenus. C'est vrai, on peut quand même avoir de critiques par rapport à ça, mais il faut plutôt entrer dans le cahier des charges des uns et des autres. Tous nous ne pouvons pas faire la même chose, on ne doit pas être dans l'uniformisme. Bon, voilà, c'est un débat. Voilà, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe. On donne directement la parole à notre invité.
Je vais répondre directement à mon compatriote et je pense que c'est valable pour ceux qui nous suivent. Il faut que nous, Africains, qu'on puisse se départir d'un certain complexe. Moi, j'ai travaillé dans ces médias internationaux pendant beaucoup d'années et je peux vous dire que la crédibilité, l'objectivité, le sérieux ne sont pas toujours de mise. Ce n'est pas parce que c'est annoncé par BBC, par RFI, par France 24, que c'est forcément la vérité, l'objectivité, c'est faux. Moi, j'y travaille, je suis avec eux quasiment tous les jours.
Nous avons des amis à RFI qui nous appellent quand il y a des
infos à voir ici à Kinshasa. Il faut seulement comprendre que tous les médias à travers le monde fonctionnent en fonction des intérêts.
Radio France Internationale, France 24, etc., font partie du bloc qu'on appelle l'audiovisuel extérieur de la France, pour faire la politique de la France. Et s'il faut influer dans un pays par rapport aux intérêts de la France, ils vont donner une information en fonction de cela. La CNN, c'est la même chose, la BBC, c'est la même chose. Et nous, nous ne pouvons pas avoir le complexe de dire tout ce que nos médias nous disent, c'est faux, c'est seulement ce qui vient d'ailleurs. C'est faux d'ailleurs, c'est faux. Pourquoi ? Parce que il faut qu'on puisse, nous, à partir de notre pays, commencer à vivre comme des gens qui aimeraient s'émanciper. Je vous ai donné l'exemple dans les années, pendant la période coloniale, eh bien, les colonisateurs, les Belges à l'époque, disaient que nos traditions, c'était n'importe quoi, Kimbangu, c'était n'importe quoi, Lumumba, c'était n'importe quoi, etc. Pendant la période du Mobutu, tout ce qui était avec le maréchal Mobutu disait que c'était toujours formidable, 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 formidable. Et depuis 1990, il y a maintenant ce qu'on appelle les jeux d'intérêt. Ceux qui sont dans la presse vite rouge de l'opposition. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui est de la vérité, je vous ai dit. Ceux qui sont avec le pouvoir, ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui est de la vérité. La presse est un vecteur d'information. Il appartient au peuple de faire le tri. Ce tri est fait sur base de ce qu'on appelle la confiance que vous faites à vos médias à travers les soutiens. Dans nos pays, on n'achète pas la presse. On ne paye pas la rédévance. Comment voulez-vous qu'un journaliste puisse vivre de son métier lorsque vous n'achetez pas un journal, lorsque vous ne payez pas l'abonnement? On préfère aller payer l'abonnement de Canal Plus pour regarder des films, des matchs, que de prendre l'abonnement d'un média local parce que vous dites tout doit être gratuit. Il faut bien que cet argent sorte de quelque part. Mais à partir du moment où un pasteur paye son média, il faut que la ligne électorale soit respectée. À partir du qu'un politique le fasse, un député, quelqu'un même de l'opposition, il faut bien qu'il influe. Donc il appartient aux journalistes de vivre dans un environnement d'abord qui s'autogère, c'est ce que le travail nous devons essayer de faire pour responsabiliser les journalistes, mais il ne faut pas avoir le complexe de penser que c'est tout ce qui vient de l'étranger qui est
produit. Voilà. Jean-Marie Kassamba, actuel président de l'UNPC Kinshasa, vous avez du pain sur la planche et nous vous souhaitons bon vent, en tout cas pour votre nouvelle désignation, la tête de l'UNPC Kinshasa.
Nous avons du travail.
Voilà. Alors nous disons également merci à tous les journalistes, plutôt tous les auditeurs qui ont participé à ces débats. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Julie Feza Bongonda. Une émission coordonnée et présentée par J.R. Nguembo sous la supervision de Léonard Moulamba. On prend rendez-vous avec vous demain vendredi pour terminer donc la semaine et nous allons repartir la semaine prochaine avec le débat sur le 1 an de victoire sur la M23. Quel bilan faire à vous tous. Nous souhaitons une bonne suite des programmes sur OCAPS.